Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Dans quelques jours, va se réunir à Paris l'une des organisations les plus puissantes et les plus secrètes du monde, la FIFA, la Fédération internationale du football, périodiquement ébranlée par des affaires de corruption. Et c'est en fait le terrain où s'affrontent sans crampons des États, des investisseurs, des médias, des sponsors, des agents, avides d'exprimer leur puissance et d'en exploiter les retombées. Mondialisation oblige, le football est aujourd'hui le premier sport global dont les enjeux politiques et financiers sont masqués, souvent à dessein, par l'exaltation populaire du geste sportif. Comment le Qatar vient-il de triompher de l'Arabie Saoudite qui fait tout pour entraver l'organisation de la prochaine Coupe du Monde? Pourquoi les clubs anglais sont-ils tellement riches? Quel serait l'impact du Brexit, si Brexit il y a? La Chine veut-elle conquérir la planète foot? La Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, dès la fin juin, va enflammer tout un continent. Et c'est en France que va se dérouler, à partir de vendredi prochain, la Coupe du Monde féminine. Au-delà des revendications légitimes et anciennes, d'où vient donc ce subit intérêt pour la féminisation d'un sport toujours considéré comme l'expression même de la virilité, côté joueur et côté supporter? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Bastien Drude. Bonjour, vous êtes économiste et vous appartenez à l'équipe stratégie et recherche économique d'une grande société de gestion. En duplex depuis France Bleu à Besançon, Paul Dietschy, bonjour, vous êtes historien, bonjour. Professeur à l'Université de Franche-Comté. Par téléphone depuis Lyon, Michael Correa, vous êtes journaliste. Bonjour. Et auteur d'une excellente histoire populaire du foot. Par téléphone aussi, Carole Gomez, bonjour, vous êtes chercheuse. Bonjour. À l'IRIS, spécialiste des relations entre sport et géopolitique. Paul Dietschy, je commence avec vous. La semaine dernière, la FIFA annonçait par un bref communiqué qu'elle renonçait à un projet qui semblait pourtant être le projet fétiche de Monsieur Infantino, qui est donc le patron de la FIFA, qui d'ailleurs, je crois, va être renouvelé pour un deuxième mandat. Et ce projet, c'était d'obliger le Qatar, donc dès 2022, pour la prochaine Coupe du Monde, de passer de 32 à 48 équipes, ce qui évidemment aurait posé des problèmes logistiques, j'imagine, absolument considérables. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que la FIFA renonce à ce projet?
Alors, ce projet de Coupe du Monde à 48 équipes, normalement, doit être inauguré en 2026. Ce qui s'est passé, c'est que la FIFA veut sans doute faire un peu oublier les conditions un peu troubles dans lesquelles la Coupe du Monde a été donnée au Qatar.
Donc ça, c'était en 2010. Ça a déclenché non seulement l'éviction de Sepp Blatter, mais il y a eu plusieurs enquêtes de différents parquets, le Suisse, oui. Je crois le Français.
Et ce qui a conduit notamment à l'éviction d'un vice-président de la FIFA, Bin Hammam, un Qatari fortement soupçonné et convaincu de corruption. C'était un moyen donc de montrer que cette Coupe du Monde, c'était celle du Moyen-Orient, une terre sur laquelle il n'y a jamais eu de Coupe du Monde, en la partageant avec des pays qui sont entrés dans le football un peu plus tôt. Ça pouvait être le Koweït, par exemple, qui a participé à la Coupe du Monde dès 82, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Le problème, c'était évidemment de rassembler des frères ennemis, puisqu'on sait que l'Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont lancé un blocus contre le Qatar.
Ça, donc les conditions en juin 2017, oui.
Tout à fait. Donc les conditions politiques, évidemment, elles n'étaient pas réunies pour que ce soit possible. Ce qui fait que Gianni Infantino a dû quand même se résoudre à noter que le football ne peut pas tout dans la géopolitique. Il y a des forces qui le dépassent tout de même.
Est-ce qu'on peut malgré tout imaginer, Monsieur Dechi, que les Saoudiens ont quand même mis toutes sortes d'arguments sonores et trébuchants pour convaincre la FIFA que c'était la chose à faire?
Oui, de toute façon, toutes ces fédérations ont une influence au sein de la FIFA depuis les années 1970. Il y a aussi évidemment une menace voilée. Si le blocus continue, la Coupe du Monde aura peut-être des difficultés à être tenue en 2022, même si le Qatar a les moyens finalement de faire face à cela. Et puis il y a quand même, me semble-t-il, l'inconnu. Quid si l'équipe d'Arabie Saoudite, par exemple, se qualifie pour cette Coupe du Monde? Que feront les Saoudiens? Enverront-ils des supporters? On sait que en 2019, cette année, la Coupe d'Asie des Nations a eu lieu aux Émirats Arabes Unis. Le Qatar l'a remportée devant 40 000 spectateurs déchaînés qui ont jeté des chaussures en signe d'indignation sur le terrain, d'autant que les Qataris avaient battu, écrasé les Émiratis 4-0 en demi-finale. Donc on voit que se mêlent des considérations qui sont hautement sportives, si j'ose dire, à des considérations qui sont celles de la géopolitique de la péninsule arabique.
Et on se souvient que les Saoudiens avaient joué un tour à la chaîne Qatari beIN Sport au moment de la précédente Coupe du Monde. Ils avaient offert en fait des boîtiers qu'ils avaient appelés assez drôlement B-Out, et en fait ils avaient kidnappé les signaux, ce qui fait que non seulement les Saoudiens mais beaucoup de gens dans le monde arabe pouvaient regarder gratuitement ces matchs dont les Qataris avaient acquis les droits à grands frais. Le sport est devenu entre ces pays-là vraiment un terrain de bagarre à la fois géopolitique et nationale.
Oui, parce que c'est un lieu d'affirmation. Le Qatar a nettement une diplomatie sportive qui lui permet finalement d'avoir une visibilité qui est sans commune mesure avec la petite taille de ce pays. Pendant longtemps, c'est encore un peu le cas. Le terrain finalement d'affirmation, c'est plus les coulisses, le tapis vert, les fédérations, plus que sur le terrain, parce que ces équipes évidemment ont encore un niveau qui est relativement faible, voire moyen.
Enfin bon, on vient d'apprendre aussi il y a quelques jours que Nasser Al-Khelaifi, qui est donc le patron du PSG, a été mis en examen pour corruption active. Mais alors cette fois, c'est dans l'affaire des mondiaux d'athlétisme.
Voilà, c'est dans un autre sport, pour pouvoir acquérir les droits sur ces mondiaux. Bon, il est fortement soupçonné, avec un autre Qatari, dirigeant Qatari, d'avoir contribué finalement à la corruption dans le sport. Et il faut dire aussi que la Fédération internationale d'athlétisme a été fortement touchée ces dernières années, on parle surtout du football, par la corruption.
Bastien Drude, vous êtes vous économiste et vous vous intéressez donc à l'économie du football plus particulièrement. Au fond, au fil de l'histoire, on a vu que les investisseurs ont changé de nature, j'ose dire.
Alors, historiquement, les actionnaires des clubs étaient plutôt, on en trouvait plutôt des hommes d'affaires, des grandes entreprises. On est passé à des milliardaires dans les années, des personnes très fortunées dans les années 90 et 2000.
Donc c'était les oligarques russes surtout.
Et oui, en partie. Et il y a eu un vrai tournant en 2010 où il y a eu l'arrivée de plusieurs puissances étatiques. Donc la première, je pense qu'on pourrait dire que c'est en 2008 le cher Mansour, donc qui était le vice-premier ministre d'Abu Dhabi, qui a acheté le club de Manchester City. Ensuite, on a franchi une étape supérieure en 2011 avec un État, donc le Qatar, qui a acheté un club de foot, le Paris Saint-Germain. Et puis ensuite, il y a eu aussi notamment l'arrivée de la Chine qui a fait une entrée fracassante vers 2015. La Chine, les investisseurs chinois ne possédaient à peu près aucun club en Europe avant 2015. Et sur les années 2015, 2016 et 2017, les investisseurs chinois ont dépensé 2 milliards et demi de dollars pour acheter une trentaine de clubs en Europe. Bon, ils sont pas toujours majoritaires. On peut penser à Lyon en France où il y a une société de capital risque qui détient 20% donc de l'Olympique Lyonnais. Il y a des clubs de première ligue, il y a Southampton, Wolverhampton, et il y a vraiment une politique de développement très très forte des Chinois en ce qui concerne le foot.
Comment explique-t-on l'accroissement des investissements, si l'on s'en tient simplement aux chiffres qui deviennent stratosphériques? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est l'importance des droits télé? Est-ce que ce sont les sponsors? Qu'est-ce qui fait, encore une fois, cette croissance qui paraît exponentielle?
Alors, il y a d'une part les investissements qui sont effectués par les propriétaires, hein, donc là on va ne parler d'États, ouais. Donc comme le Qatar, la Chine, Abu Dhabi, qui ont investi énormément d'argent dans le foot, mais ensuite dans les recettes plus traditionnelles des clubs, il y a évidemment les droits télé, où là bon, c'est le foot est un sport très populaire et les droits télé ont extraordinairement augmenté, notamment parce qu'il y a une bataille de différents acteurs pour acheter les droits télé. Auparavant, on surprend un peu, donc dans les années 80, il y avait que Canal Plus en France qui a acheté les diffusions des matchs de première division. Et ensuite, il y a d'autres acteurs qui sont arrivés. Il y a eu beIN Sport notamment. En Angleterre, il y a eu des fournisseurs d'accès Internet qui ont commencé à concurrencer des chaînes de télévision pour acheter les droits télé. Hein. On peut penser à British Telecom qui a acheté les droits télé de Premier League. Et puis maintenant, il y a aussi l'arrivée de géants du numérique comme Amazon qui a acheté la diffusion de deux journées de Premier League, donc à partir de l'année prochaine. Et puis il y a aussi Facebook qui a commencé à acheter des matchs, des diffusions de matchs en Amérique du Nord. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui se concurrencent pour acheter les droits télé, ça les a fait très fortement monter. Donc ça, c'est quand même l'évolution des droits télé, je pense, le principal point. Mais en ce qui concerne les grands clubs européens, il y a d'autres sources de revenus qui ont très fortement augmenté, et notamment les contrats de sponsoring. Il y a des contrats de sponsoring qui sont devenus extrêmement important, parce que on avait plutôt des sponsors qui étaient locaux auparavant. Il y avait des entreprises locales, nationales qui sponsorisaient le club de foot. Maintenant, c'est plutôt des multinationales qui sponsorisent des clubs. Par exemple, à Manchester United, il y a l'entreprise américaine Chevrolet qui sponsorise le club pour des montants qui sont extrêmement importants. Et voilà.
Pourquoi est-ce que les clubs anglais sont les plus riches?
Ça, c'est un peu le premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas vraiment de puissance correctrice dans le football professionnel. Il y a un modèle qui est assez déséquilibré. L'une des raisons, c'est par exemple, quand on distribue les droits télé dans les championnats européens, les premiers du championnat, qui sont à peu près déjà les plus riches, vont recevoir plus de droits télé que les autres, et la compétition est encore plus déséquilibrée par la suite. Donc en fait, on n'a pas vraiment de mécanisme correctif qui fait que qu'on ait des équipes qui retrouvent le même niveau. Donc si la Première Ligue avait un avantage économique au départ, eh ben, elle a pu l'accroître au fil du temps.
Et c'est Rupert Murdoch qui a fait la différence. Le magnat australien à l'origine,
oui, qui a joué un rôle clé.
Américain, oui. Depuis, il a lancé, oui, la chaîne Sky. Oui. Et c'est ça véritablement qui a créé...
C'est ça qui... En fait, en parallèle, il y a eu Canal Plus en France. Il y a eu donc Rupert Murdoch à peu près en même temps en Angleterre, qui a lancé Sky, qui d'ailleurs avait failli ne pas marcher à l'époque. Hein, c'était un énorme pari. La chaîne n'avait pas été n'avait pas été profitable tout de suite. Ils avaient dû fusionner
Canal
avec une autre chaîne de télévision. Le groupe Sky avait dû fusionner avec une autre chaîne de télévision, et c'est devenu profitable au fil des années grâce aux abonnements des Anglais, quoi.
Retournons à Besançon, vous rejoindre Paul Liechy. Vous enseignez à l'université de Franche-Comté. Comment et pourquoi est-ce que le football est devenu véritablement ce sport mondial, ce sport global qui déchaîne à la fois les passions et les investissements et les fureurs et les rivalités à ce point?
Le football, il est très lié à tous les processus de la mondialisation depuis la fin du 19e siècle. Et c'est le sport véritablement de la mondialisation. Pour quelle raison? Certainement parce que c'est un bon mélange à la fois de virilité, mais pas trop, et en même temps de technique. Un jeu qui est assez simple, qui demande peu de moyens, et qui a été diffusé à la fois par les agents de l'impérialisme britannique, mais aussi dans les colonies, par les prêtres, par les militaires, qui a été aussi placé au cœur des politiques sportives des régimes totalitaires en Europe, qui a été le sport aussi emblématique des ouvriers. Donc tout cela a préparé, a construit la popularité du football, qui est finalement pratiquement universelle. Même aux États-Unis, on joue au football, alors les femmes davantage que les hommes, mais c'est aussi un sport qui est très pratiqué, y compris en Australie, pour lequel on imagine plus le rugby, etc.
Mais dans cette carte du monde, l'Europe reste véritablement au centre. C'est l'Europe qui reste le continent du football.
Oui, l'Europe le reste pour différentes raisons. D'abord pour des raisons économiques. C'est là où les clubs sont les plus stables, les plus puissants, où les revenus finalement générés sont les plus importants. Et surtout, il y a une tradition de migration de footballeurs vers l'Europe qui commence dès les années 20 et 30 pour les Sud-Américains, puis pour les Africains. Donc, il y a ces flux qui sont nourris, alors avec des forces différentes selon les périodes. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le football, les lieux sont importants. Autant aux États-Unis, les clubs sont des formes de franchises qu'on peut déplacer du nord au sud des États-Unis. En Europe, les lieux historiques sont fondamentaux. C'est ce qui fait la fortune de Manchester United, de Barcelone, du Real Madrid. Et ce qui fait que c'est une activité qui ne peut, pour le moment, ne se faire qu'en Europe. Et on a parlé tout à l'heure des droits en Angleterre. Ces droits sont importants aussi parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni bénéficient quand même d'un certain prestige, de relations culturelles privilégiées avec l'Asie du Sud et aussi l'Asie de l'Est. Et une grande partie de cette demande est fournie notamment par des Chinois ou par des Indiens qui sont très friands de ce football anglais.
Il y a aussi des bagarres au sein même du football européen. Pourquoi est-ce que trois grandes ligues nationales comme l'anglaise, donc la Premier League, la Liga espagnole et la Bundesliga allemande, cherchent noise à l'UEFA? Apparemment, les relations sont tendues en ce moment.
Oui, l'UEFA, c'est une confédération, donc le rassemblement des fédérations nationales sur un continent, mais qui va très loin, puisque ça va jusqu'en Israël et la Turquie pour l'Europe, donc l'UEFA, l'Union des associations européennes de football. Aujourd'hui, le produit phare de l'UEFA, c'est la Champions League, mais dont on voudrait voir un certain développement sous la forme d'une sorte de ligue européenne, donc qui supplanterait d'une certaine manière les ligues nationales. Et ce qui fait que, bien évidemment, en particulier les Anglais, n'en veulent pas. Pour quelle raison?
Ils n'y vont pas de main morte. Je lisais quelque part qu'ils accusent l'UEFA d'entretenir une culture de dessous de table, favorisant les gros clubs aux dépens des ligues nationales.
Oui, alors parce que finalement, les ligues qui voudraient l'avènement, en tout cas les clubs qui voudraient l'avènement de cette Super Ligue européenne, c'est notamment le Paris Saint-Germain, quelques clubs ou la Juventus en Italie, qui dominent leur championnat et donc qui se trouvent un peu à l'étroit dans la frontière nationale. En Angleterre, eh bien, on sait très bien que pour beaucoup de Britanniques, l'Europe, c'est évidemment le lieu de toutes les turpitudes et de la corruption. Donc ce genre d'accusation est finalement classique. Mais ils ont quand même un championnat qui est évidemment beaucoup plus disputé. Vous avez au moins 4, 5, 6 grands clubs. La répartition des droits dont on a parlé fait que un club moyen de Première Ligue a pratiquement plus de droits télé que des gros clubs continentaux. Donc il s'agit de protéger finalement cette Première Ligue. Et on pourrait très bien imaginer dans le futur finalement deux ligues concurrentes. Il y aurait une ligue continentale européenne. Et les Anglais se réfugieraient finalement dans une sorte de NBA anglaise et qui attire parce que il y a tout ce côté de la culture britannique, ces stades, cette ambiance et qui plaît beaucoup notamment aux téléspectateurs asiatiques.
Michael Correia, on ne vous a pas encore entendu, vous êtes journaliste, vous avez écrit une histoire populaire du foot. Votre explication de ce développement assez singulier du football en Angleterre, ça passe d'abord par l'argent, par la financiarisation du foot?
Oui, exactement. Il y a une année qui est un peu tournant dans cette financiarisation du football, c'est vraiment l'année 1992. C'est vrai, comme on le disait auparavant, c'est vraiment l'arrivée de Rupert Murdoch, hein, ce malade de la presse, avec son groupe Biscaybee. C'est ce groupe-là de chaînes satellitaires qui va vraiment racheter les droits TV, mais surtout apporter une manne d'argent assez gigantesque. Et au fait, cette manne d'argent gigantesque elle va vraiment restructurer radicalement, hein, restructurer en profondeur le championnat anglais avec justement la création de cette fameuse première ligue qui est en gros, hein, pour faire simple, on va prendre les 20 clubs les plus riches, les plus talentueux et créer une ligue de football qui est un peu séparée, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais qui est un peu plus séparée du reste du championnat anglais, quoi. Ce qui va se passer, au fait, c'est que cette manne d'argent qui arrive à chaque fois en début de saison, c'est que les clubs, vont pouvoir entrer dans une vraie logique de financiarisation et aussi dans les logiques d'endettement qui sont afférentes à ce type de marchandisation, quoi. Et on va voir comme ça très rapidement, quelques années après la création de la première ligue, les principaux clubs qui vont rentrer en bourse, mais aussi qui vont s'endetter extrêmement lourdement. On va avoir aussi une espèce de spirale inflationniste, notamment sur le marché des joueurs, hein. Je rappelle par exemple que entre, on va dire, 1992, donc le début de la première ligue, et 2010, le salaire des joueurs de la première ligue va augmenter de un peu plus de 1500%. À la même période, pour un travailleur anglais, son salaire va augmenter de 180%. Après, ce qui est intéressant à démontrer aussi, au-delà de ce tournant néolibéral, on va dire, c'est qu'il y a eu aussi un tournant sécuritaire, en fait, qui est vraiment important, je pense, pour comprendre cette marchandisation, cette financiarisation du football. C'est que, donc, je rappelle que donc il y a eu en 1985 le fameux drame du Heysel, hein, où lors d'une compétition, enfin lors d'un match entre la Juventus de Turin et Liverpool, encore une fois, pour faire simple, il y a eu un mouvement de foule qui va entraîner
à Bruxelles.
Une quarantaine de morts. Oui, voilà, à Bruxelles, exactement. Et il y a eu un second drame qui s'appelle le drame de Hillsborough, donc en Angleterre, en 1989. Et là, encore une fois, il y a eu un mouvement de foule, on va dire, qui va créer, qui va créer la mort de 95 supporters.
Mais donc, en fait, ça prouvait la vétusté des stades et l'inadéquation complète par rapport au déchaînement des foules.
Exactement, c'est exactement ça. On va voir, le gouvernement anglais va faire appel à un juge et qui va émettre ce qu'on appelle le fameux rapport Taylor. Et donc ce rapport Taylor va démontrer effectivement donc la vétusté des stades et va vraiment préconiser une modernisation, hein, de ces stades, qui va aussi s'accompagner d'une hypersécurisation, en fait. C'est-à-dire que on va commencer à généraliser la vidéosurveillance, on va essayer aussi de beaucoup travailler sur la surveillance policière et la répression policière pour essayer justement de d'éjecter les hooligans, ces supporters un peu plus violents.
Oui, ou de les contenir, en fait. Ça, on voit ça dans tous les stades européens maintenant.
En fait, ce qui va se passer ensuite suite à ça, c'est vraiment ce que moi j'appelle une gentrification des stades. En fait. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une hausse assez effarante du prix des billets, des abonnements un peu partout en Angleterre. Et aussi qui va ensuite aussi découler sur toute l'Europe. Et au fait, ce changement-là des tarifs et puis aussi cette modernisation des stades, en fait, elle va vraiment changer la composition sociale des stades. En fait, c'est-à-dire que on va plus essayer d'attirer des supporters, mais vraiment des consommateurs solvables au sein des stades, quoi.
Carole Gomez, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRIS. Il y a un phénomène nouveau dans ce paysage footballistique et surtout pour ceux comme moi qui ne sont pas très, comment dire, ferrés en la matière, c'est que les femmes jouent et il y a même une Coupe du Monde qui va commencer en France dans quelques jours, le 7 juin, très précisément, du 7 juin. Au 7 juillet, il y a eu un emballement, il semblerait, malgré quelques pépins, que beaucoup de billets aient été vendus. Comment s'explique cet engouement soudain pour le football féminin ?
Bonjour. Pour le coup, j'aurais tendance à peut-être un peu nuancer cet élément-là, puisque si c'est un engouement soudain dû à la proximité de l'événement, c'est pas forcément quelque chose qui est nouveau, puisque depuis très longtemps déjà, il y a, alors à l'échelle globale, dans certains pays, un certain nombre, une vraie passion pour la pratique féminine. Et pour preuve, on a tendance à oublier que la pratique féminine a une histoire assez ancienne, alors qui est peut-être moins ancienne que celle des hommes, mais tout de même, puisque certains matchs réunissaient dès les années 1920 plus de 50 000 spectateurs. Alors certes, c'était des matchs de charité, mais qui montraient aussi l'importance que cela pouvait avoir.
Mais est-ce que la FIFA, à un moment donné, n'avait pas dit qu'il y avait des règles médicales évidentes qui faisaient que les femmes ne devaient pas jouer au foot? C'était alors, à quelle époque, ça?
Alors là, ça a été à partir de 1920, il y a eu un certain nombre de restrictions qui ont été placées. Il y a eu des interdictions parfois d'avoir accès à des terrains, et il y avait des notions de pudeur, il y avait des notions de dangerosité, notamment liées à un contexte d'après-guerre où la femme retrouvait le foyer et devait donc servir la nation en faisant œuvre de reproduction et donc du coup avoir ce vrai rôle maternel qui leur était confié. Donc très rapidement, il y a eu un certain nombre de médecins qui se sont prononcés sur la dangerosité de ce sport, le football, mais comme un certain nombre d'autres sports, et qui mettaient en avant ces éléments-là. Donc,
ça a eu mais c'est vraiment en 2018 que la FIFA a mis au point, ou en tout cas affiché, une stratégie globale pour le foot féminin.
Alors, pour être parfaitement précise, à partir de 1980, elle a commencé à s'y intéresser parce que tout simplement, il y avait des compétitions officieuses qui se développaient dans le courant des années 70, dans le courant des années 80. Et donc, il y a eu un premier rapport qui a été commandé à ce moment-là. Et la première Coupe du Monde pratiquée par des femmes a eu lieu en 1991. Donc, ce qui là encore montre qu'il y a un certain nombre d'historiques à cette pratique féminine. Petit à petit, des axes, des priorités, des plans ont été publiés, notamment un premier symposium a eu lieu en 1995 et où Sepp Blatter avait cette phrase de l'avenir du football est féminin et qu'il faut désormais que ce soit une priorité. Priorité qui a évidemment, et comme le témoignent les chiffres, un petit peu tardé, même si la FIFA a très rapidement compris que si dans le domaine des hommes, le réservoir de pratiquants allait rapidement se tarir, celui des femmes, au contraire, était entièrement à conquérir. Et donc, on a vu au fur et à mesure des années, à partir de, on va dire, 2010, et notamment à la suite d'un certain nombre d'actions concrètes et de plans annoncés, une vraie volonté de la FIFA de développer.
Et donc ça veut dire accroissement des droits télé, des sponsors et des marques qui parient de plus en plus sur le foot au féminin.
Oui, et c'est surtout aussi la volonté de donner un certain nombre de moyens aux fédérations, à des clubs, et véritablement encourager. Alors, là, quand on parle de la féminisation du football, on pense évidemment aux joueuses, mais il serait aussi essentiel de rappeler qu'il y a des arbitres, qu'il y a des entraîneuses, qu'il y a des dirigeantes, qu'il y a des présidentes de fédérations, de clubs, mais également des supportrices. Et c'est aussi cette volonté-là qui est marquée par la FIFA de vraiment féminiser ces instances.
Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des rémunérations? Parce qu'on sait que pour les grands joueurs masculins, elles sont absolument astronomiques, avec d'ailleurs un niveau de tolérance très très élevé de la part des opinions publiques, alors que on se met assez volontiers en furie quand il s'agit des émoluments dans d'autres professions. Mais les joueurs de foot, ils peuvent gagner en une journée ce que certains mettent toute une vie à gagner. Personne ne proteste. J'imagine que s'agissant des femmes footballeuses, le différentiel de salaire vers le bas doit être considérable.
Oui, il est tout à fait conséquent. Alors, si on n'a pas de chiffres extrêmement précis sur les différents plus hauts salaires, tout simplement parce que il y a aussi un intérêt de la presse qui s'y intéresse pas encore totalement, même si ça commence à se développer, on a assez peu de chiffres sur ces éléments-là. En revanche, sur la question des primes et sur la question des conditions, c'est quelque chose qui est de plus en plus remarqué, noté et dénoncé par un certain nombre de joueuses ou d'associations. J'ai en tête un épisode qui s'était passé avec le club du Real du FC Barcelone qui avait fait une tournée aux États-Unis et où les hommes avaient les joueurs barcelonais avaient donc eu leur voyage payé en classe business en avion et les femmes en classe économique. Donc ce qui montre aussi qu'il y a encore quelque chose qui n'est, même s'il y a eu un discours extrêmement positif, il y a encore certaines choses qui restent à construire, et c'est dans ce sens que les joueuses américaines, donc championnes du monde en titre et qui ont un palmarès absolument considérable au niveau de la pratique féminine, n'ont touché qu'en 2015, lors de la dernière Coupe du Monde, qu'une prime de 1,8 million de dollars, à la différence des hommes qui, eux, ont touché 5,7 millions de
Oui, donc ça, donc 5 fois moins.
Pour simplement avoir à Quin les 8e.
Mais pourquoi est-ce que le foot féminin s'est développé davantage aux États-Unis qu'ailleurs? C'est parce que les hommes jouent, les hommes préfèrent d'autres sports que le foot?
Alors, d'une part, effectivement, on a tendance à considérer le football comme un sport dit féminin aux États-Unis, alors que les sports dits masculins sont plutôt le basket, le baseball ou le hockey sur glace. Et donc, un certain nombre de personnes, de petites filles, ont tendance à plutôt se diriger vers le football, le soccer, mais également parce que l'imaginaire est beaucoup moins marqué par cet élément de masculinité. Et donc, les parents vont avoir beaucoup moins parfois de réticence à mettre leur fille au football que s'ils leur demandaient de faire un autre sport. Et comme un certain nombre de parents en Europe peuvent avoir cette réticence.
En tout cas, j'ai vu que même les fabricants de baby-foot s'y mettent, puisqu'on annonce des baby-foot avec des petits personnages féminins. Donc voilà, tout arrive. Merci beaucoup d'avoir été au téléphone avec nous. Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire. On entendait tout à l'heure, grâce à Bastien Drut, que la Chine n'est évidemment pas absente de cette espèce d'engouement mondial pour le foot, avec tous les enjeux que ce sport entraîne. Est-ce que la Chine elle-même affiche déjà son ambition de gagner une Coupe du Monde dans les années qui viennent?
Alors ça, c'est son ambition, mais maintenant, si on juge les dragons, c'est le nom de l'équipe nationale chinoise, à leur performance, eh bien, on peut pas dire que jusqu'à présent, ils étaient très brillants. La Chine, qui évolue au 74e rang mondial selon le classement de la FIFA, ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour la Coupe du Monde, c'était en 2002, et encore, nous rappelle cruellement le site allemand Deutsche Welle, elle était incapable de marquer un seul but pendant cette compétition. Mais 2 ans plus tard, les Chinois arrivaient en finale de la Coupe d'Asie, remarque le site, qui s'interroge, l'immense pays peut-il s'accrocher à ce modeste succès? C'est en tout cas le vœu de Marcello Lippi, le sélectionneur italien qui encadre l'équipe chinoise. Il faut savoir qu'il s'agit d'un des postes d'entraîneur le mieux payé au monde. Et c'est surtout le souhait du président chinois qui a promis de faire de son pays une grande nation du football. Xi Jinping a 3 rêves, résume le Financial Times, se qualifier pour la Coupe du Monde, accueillir l'événement et un jour la gagner. Alors pour y parvenir, le pays s'est donné des moyens importants que détaillait il y a quelques mois le journal suisse Le Temps, une forte croissance des dépenses de transfert et de salaire des joueurs, même chose pour les droits TV en forte hausse, encouragement de la fréquentation des stades et enfin des prises de participation dans de nombreux clubs européens comme nous l'expliquait tout à l'heure Bastien Drut. Cette stratégie a été soutenue dans un premier temps par le gouvernement chinois et en particulier par Xi Jinping qui est, alors là je cite l'agence de presse chinoise Xinhua, un supporter de football avec une collection de maillots à faire pâlir d'envie les plus grands fans.
Mais au-delà de la collection de maillots du président chinois, est-ce que cette stratégie commence à porter ses fruits?
Alors, ce qu'on voit, non. En fait, elle s'est heurtée à de nombreux obstacles, et si bien que, un peu plus de 2 ans après avoir déclenché cette ruée vers le football, le gouvernement chinois a commencé l'an dernier à faire marche arrière. Ce qui s'est passé dans le football est typique de la Chine, confie au Financial Times Marc Dreyer, qui dirige un site internet appelé China Sports Insider à Pékin, et il poursuit, il y a eu un feu vert, et tout le monde a démarré au quart de tour, et puis il y a un feu rouge, et maintenant on est un peu sur un feu orange. Alors, dans les faits, la Chine a revu sa stratégie. Elle a mis un terme aux dépenses jugées irrationnelles. Elle limite aussi l'importation de joueurs étrangers en appliquant notamment une taxe de 100% sur les frais de transfert quand ils dépassent 7 millions de dollars. Enfin, Pékin veut jouer surtout la carte des talents locaux, et ce, dès le plus jeune âge. Ainsi, relève le journal Asia Times, le gouvernement a annoncé son intention de déployer des programmes de football dans les écoles du pays. Et en 2025, eh bien, 50 000 écoles devraient offrir un enseignement spécialisé dans le football à environ 30 millions d'élèves. Les clubs aussi se dotent de centres de formation. L'homme d'affaires Jack Ma, qui était il y a quelques jours en France, donc le propriétaire d'Alibaba, possède une participation de 50% dans le club Guangzhou Evergrande. C'est le club le plus titré de Chine. Il a investi dans l'une des plus grandes académies de football du monde, donc dans le sud de la Chine, qui forme entre 2000 et 3000 jeunes joueurs sur plus de 50 terrains. C'est ce que nous raconte le Financial Times. Mais attention, quand on évoque le football en Chine, on parle d'un football aux caractéristiques chinoises. Il nous explique la revue allemande Journal of Current Chinese Affairs. Et je vous cite une de ces caractéristiques. Eh bien, les propriétaires de clubs ont reçu tout récemment des instructions de la part du secrétaire du Parti communiste de la Fédération chinoise de football. Et selon le Financial Times, cet homme du parti leur a demandé d'étudier et de mettre en œuvre la pensée de Xi Jinping. Alors, on peut se demander si les femmes, les footballeuses chinoises sont inspirées par la pensée du leader chinois. En tout cas, elles réussissent plutôt mieux que les hommes sur les terrains puisqu'elles se classent au 16e rang mondial selon la FIFA.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Bastien Dru, la Coupe d'Afrique des Nations va commencer à la fin du mois de juin. Elle devait avoir lieu au Cameroun, mais pour des raisons d'instabilité politique locale et des raisons de sécurité, c'est en Égypte qu'elle va se dérouler, même s'il y a eu un attentat il y a quelques semaines à Gizeh, près du Caire. Et là, les enjeux, on le voit à chaque fois, sont énormes, encore une fois, entre tous ces pays africains qui sont particulièrement fiers de leurs équipes et où on retrouve évidemment certains joueurs qui jouent dans les grands clubs européens la plupart du temps.
Il y a énormément de joueurs africains qui jouent dans les grands clubs européens. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que s'il y a bien une zone dans le monde où le football est perturbé par la politique et la géopolitique, c'est bien l'Afrique. Parce que ça sera quand même la quatrième fois de suite que la Coupe d'Afrique des Nations ne se jouera pas dans le pays qui avait été désigné au départ. En 2013 et en 2017, la Coupe d'Afrique des Nations devait jouer en Libye. Il y a eu les événements qu'on connaît. Il y a eu aussi des problèmes en 2015, elle aurait dû se jouer au Maroc et finalement ça s'est joué en Guinée équatoriale. Donc voilà, il y a vraiment très souvent le foot africain qui est perturbé par des problèmes politiques et géopolitiques.
Alors ce que l'on sait aussi, c'est que c'est dans certains pays africains que les agents vont repérer de tout jeunes, parfois des enfants, de tout jeunes joueurs avec des filières véritablement et tous les excès aussi que ça peut entraîner.
Mais oui, il y a d'énormes problèmes parce que les clubs européens sont prêts à beaucoup de choses, sans citer de noms, pour essayer d'acquérir les talents de demain. Parce que un talent jeune peut rapporter beaucoup, et puis si jamais il marche pas très bien, s'il n'arrive pas à percer, eh ben on le renverra chez lui ou on le renverra dans la rue. Il y a d'énormes problèmes de casse sociale avec le fait que les grands clubs européens essaient de faire venir des jeunes joueurs, donc souvent mineurs, en Europe, et ça pose d'énormes problèmes, quoi.
Et là, on retombe sur le marché des joueurs, avec quelques agents très influents, mais aussi des réseaux. Je crois que le football belge en particulier est englué dans des histoires qu'on va appeler complexe par politesse, mais ce mercato des joueurs maintenant, ça représente là aussi des sommes absolument astronomiques.
Oui, ben en fait, comme les recettes des très grands clubs européens, si on prend les 20 plus grands clubs européens, les recettes ont très fortement augmenté, même sur les 10 dernières années. Et en fait, comment est utilisé cet argent des clubs professionnels? Eh ben, en deux choses, il y a les salaires des joueurs. C'est à peu près la moitié, ça correspond à peu près à 60 à 70% des recettes. Et puis ensuite, il y a les dépenses de transfert. C'est acheter les joueurs sur le marché des transferts. Donc, assez logiquement, si les recettes augmentent, il y a les dépenses des clubs qui augmentent aussi. Finalement, on se rend compte que les dépenses, elles suivent à peu près les recettes et qu'il n'y a pas vraiment d'abus de ce côté-là. Il y a juste quelque chose qui est assez proportionnel. Mais effectivement, les sommes montent très fortement ces dernières années. Ouais.
Apparemment, l'année dernière, il y a eu plus de 60 transferts qui ont dépasser les par transfert, oui. les 20 millions d'euros.
Oui, c'est quelque chose qu'on voyait pas il y a même 10 ans. Hein. Il y a vraiment. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le prix sur le marché des très très grands joueurs, bon, il a toujours été très élevé. Et là, ce qui est un peu nouveau ces dernières années, c'est qu'il y a aussi des joueurs d'un talent un tout petit peu inférieur aux superstars mondiales qui ont aussi très fortement augmenté, notamment avec ce que disait tout à l'heure Paul Dietschy, qui est le fait que même un club de milieu de tableau en Angleterre dispose de moyens financiers qui sont considérables et qui sont très largement supérieurs, on va dire, au troisième ou quatrième de Ligue 1, qui donc peut attirer beaucoup de talents en Angleterre. Et donc des joueurs même de niveau finalement moyens ont fortement monté aussi ces dernières années.
Et donc ça veut dire que cet écart entre les grands clubs et les clubs moyens, ne parlons même pas des petits, cet écart est condamné à
exactement, il y a vraiment un football à deux vitesses qui est en train de se mettre en place avec des très grands clubs européens, bah, Paris en France, en Espagne il y a le Barça, le Real Madrid, il y a le Bayern Munich, il y a quelques clubs en Angleterre, on va dire il y a une petite quinzaine de clubs qui est en train de se dissocier sur le plan économique des autres clubs européens. Si vous regardez les clubs petits et moyens, finalement les recettes ont complètement stagné ces 10-15 dernières années et la divergence est de plus en plus forte. Avant, quand on prenait le champion, le club le plus riche d'un championnat comme la France ou l'Espagne et qu'on faisait le ratio avec le budget moyen d'un club de championnat, on avait quelque chose comme 6 ou 7. Aujourd'hui, on dépasse les 10, 11 et on a vraiment quelque chose qui est assez important et ce qui est assez préoccupant parce que on n'est pas forcément très loin, on le voit bien avec ces histoires de Super League européenne, d'une scission entre deux football, quoi. D'une scission entre l'élite du football européen et puis le reste, tout simplement.
Et là, les tensions, encore une fois, sont plus grandes parce que les enjeux financiers l'emportent sur toute autre considération.
Oui, parce que les grands clubs européens ont brandi régulièrement, et ce depuis quasiment 20 ans, la menace d'une scission. Et à chaque fois qu'ils ont brandi cette menace d'une scission, de la création d'une Super League, bah, l'UEFA leur a accordé plus de places qualificatives pour les championnats européens, plus de dotations financières. Et c'est comme ça. Enfin, c'est le fait que l'UEFA essaye d'arrêter cette scission, ben ça a finalement accru les inégalités économiques et financières.
Michael Correa, ce qui est très intéressant dans l'ouvrage que vous avez écrit, qui s'intitule « Une histoire populaire du football », c'est qu'on voit, pour aller vite, que le foot a commencé comme un sport des moins riches, un sport ouvrier. Je crois que le club Arsenal, en particulier, est né du mouvement ouvrier. Vous nous l'expliquiez tout à l'heure, c'est un sport qui s'est embourgeoisé, gentrifié, avez-vous dit. En fait, le foot dans le monde d'aujourd'hui, et surtout le foot européen, c'est le miroir de la société.
Oui, c'est ce que je démontre, c'est ce que j'essaie de démontrer à travers le livre. Donc, c'est vrai que toutes les questions, on va dire, on en parle avec le foot féminin, les questions aussi d'homophobie, les questions de racisme. En fait, tout ça va vraiment ressortir au sein du football, quoi. Ce que j'essaie de démontrer, c'est ce qu'on est de plus en plus à le faire, c'est que il y a toujours une espèce de dialectique entre le football en tant que culture populaire, hein, qu'on connaît tous, et ce football là ce football là marchand. Et en fait, il y a vraiment toujours une histoire de réappropriation et d'accaparement. Donc la naissance du foot, elle vient vraiment de là, hein. C'était des jeux populaires de ballon rond qui se pratiquaient depuis le Moyen Âge, qui sont codifiés par l'histoire anglaise en pleine révolution industrielle et qui justement ensuite vont être réappropriées par la working class anglaise vers la fin du 19e siècle. C'est ce qui se passe aussi exactement avec le football féminin aujourd'hui, quoi. Il y a toujours une vraie pratique populaire et un peu sauvage aussi en dehors des clubs, hein, avant que la pratique soit légitimée. Mais aujourd'hui, il y a un des plus grands enjeux, j'ai envie de dire, pour ces footballeuses professionnelles-là, elles sont prises en étant, on va dire, entre ce besoin de reconnaissance sociale et de reconnaissance médiatique, et en même temps le fait que ce football féminin aujourd'hui, c'est un vrai marché qui promet d'être juteux pour la FIFA et les autres sponsors.
Mais ça, elles aussi, enfin les footballeuses, mais aussi toutes les équipes complémentaires, qu'il s'agisse des arbitres, des entraîneuses, etc. Enfin, tout ça, c'est effectivement un secteur qui peut se développer davantage. En plus, il semblerait que les femmes ont tendance à moins tricher que les hommes.
Ça, je ne sais pas si elles ont tendance à moins tricher. En tout cas, c'est encore un espace de revendication, en fait. Féminin, c'est ça que je trouve éminemment intéressant. Il y a des grandes figures de activistes LGBT. Je pense notamment aux États-Unis, une joueuse comme Caitlin Rapinoe, qui s'affiche clairement comme défenseuse des droits de cette communauté-là. Il y a encore quelques mois, elles ont joué un match contre l'Angleterre. ces joueuses tajinènes ont décidé de mettre des grandes figures féminines sur le nom de, enfin, au dos de leur maillot, quoi. Une joueuse comme Megan Rapinoe, elle a mis le nom, par exemple, de Aude, qui est une grande poète afro-américaine, lesbienne et antiraciste. Bon, d'autres ont mis Beyoncé aussi, qu'importe. Il y a aussi une des grandes joueuses françaises, enfin, qui joue aujourd'hui en France, qui est Ada Hegerberg.
Ah oui, qui elle est norvégienne. Alors, elle a eu cette phrase que je trouve intéressante parce qu'on peut l'appliquer à beaucoup d'autres secteurs que le football. Elle a dit, il y aura toujours des cons. Parce qu'elle parlait de ceux qui demandaient aux joueuses de foot d'être à la fois sexy, sportive, etc., etc. Mais d'après ce que j'ai compris, cette jeune norvégienne a refusé de participer à son équipe nationale pour la Coupe du Monde féminine.
Oui, effectivement, elle a eu un geste qui est extrêmement fort pour une sportive de haut niveau, hein, c'est de refuser de participer à la Coupe du Monde sous l'étiquette de son équipe nationale, qui est donc là la Norvège, quoi. Elle, ce qu'elle dit, c'est que justement, il y a une hypocrisie de la part de la Fédération de football norvégienne, qui dit qui promeut le football féminin, qui veut le développer. Justement, elle déclare qu'à chaque fois qu'elle vient ou que les footballeuses viennent réclamer des droits, on leur dit qu'elles vont beaucoup trop vite ou qu'elles ont un trop grand ego. Donc face à ça, elle a décidé justement de boycotter et de pas jouer, quoi. Alors qu'elle joue dans une des meilleures équipes européennes, hein. Elle joue à Lyon, c'est une des meilleures joueuses du monde. Elle vient de recevoir aussi, il y a quelques mois aussi, le premier ballon d'or, donc c'est le trophée pour récompenser les meilleures joueuses. Elle a reçu le premier ballon d'or féminin il y a quelques mois.
Ce qui est évident, et on s'en rend compte à chaque grande compétition internationale, c'est que le football cristallise à la fois les questions d'identité, les questions de territoire, les questions de patriotisme, le drapeau, l'hymne. Tout ça, ce sont des évidences, mais en même temps, aussi des débordements en tout genre que plus personne ne contrôle à un certain moment.
Bah, oui, effectivement, le football peut jouer sur ces deux concepts-là, on va dire d'identité et de territoire, qui peuvent être des concepts qui sont facilement manipulables, on va dire. On peut parler d'identité inclusive, d'identité collective qui est ancrée justement à un territoire, qui a une histoire sociale. Mais c'est vrai que, par exemple, l'extrême droite a très bien su manipuler ces valeurs-là pour parler plutôt, on va dire, de repli identitaire ou justement de territoire exclusif où justement on va essayer de entre guillemets, exclure l'étranger. Je pense qu'il y a deux grands moments, notamment, où ça s'est traduit, hein. C'est le fameux, justement, mouvement hooligan, qui était, on va dire, plutôt un mouvement issu d'une culture populaire des anciens quartiers ouvriers des grandes métropoles anglaises à la fin des années 60. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de l'ère Thatcher, la désindustrialisation assez violente en Angleterre aussi, on va avoir tout un tas de groupuscules d'extrême droite qui vont très bien savoir jouer sur ces ressorts-là. Le deuxième espace où ça s'est beaucoup joué, c'est dans les années 90 en Italie, avec une autre culture supporter qui s'appelle la culture ultra. Il faut savoir que cette culture ultra, à la base, c'est plutôt une culture qui est née dans les années 70 et qui s'est beaucoup inspirée de pratiques qu'on retrouvait dans les cortèges de tout le bouillonnement, de toute l'effervescence sociale des années 70 en Italie.
Mais là, avec
on va dire au cortège d'extrême gauche, quoi. C'était plutôt, vous pouvez avoir un peu cette notation là. Mais là, encore une fois, on va voir tous les partis, enfin, ou certains groupuscules néofascistes qui vont très bien savoir jouer sur ces ressorts là identitaires et territoriaux, on va dire.
Paul Dieschi, tout au long de cette conversation, on vérifie que, au-delà des bras de fer qui sont véritablement politiques, hein, et on pense d'abord au plus récent, si j'ose dire, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, au-delà même des enjeux financiers, qui sont devenus gigantesques et planétaires, le foot reste un outil de propagande, et c'est le cas depuis toujours, pratiquement.
Oui, c'est alors d'abord il a été un outil pour construire la nation, par exemple en Amérique latine, puis en Afrique au moment de la décolonisation, et depuis le début des années 90, la prolifération étatique, elle est accompagnée par le football. La Croatie, par exemple, s'est largement constituée autour de son équipe nationale qui a remporté la troisième place à la Coupe du Monde 98. Et encore aujourd'hui, le Kosovo, la Palestine choisissent le football comme un étendard. Alors, c'est aussi quelque chose un peu complexe. Par exemple, Hitler s'est désintéressé du football en 36, au moment des Jeux de Berlin, lorsque la Mannschaft s'est fait éliminer par la Norvège. Donc, il y a aussi cette dimension au football qui est celle à la fois de l'aléa, et c'est ce qui fait aussi le succès du football, c'est qu'une petite équipe peut, malgré tout, à tout moment, en battre une grande.
Et dans l'Allemagne hitlérienne, je crois qu'en plus, les deux meilleurs joueurs n'avaient pas un physique qui correspondait très exactement au modèle arien.
Oui, ben ça c'était le cas d'un certain nombre de sportifs allemands. Et en plus, en 38, l'Allemagne a été battue par la Suisse à la Coupe du Monde, donc ça a complété finalement le tableau. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un retour du politique vers le football dans les démocraties. Il faut se rappeler, par exemple, 98, avec la compétition entre Jacques Chirac et Lionel Jospin pour gagner le vestiaire des Bleus. En 2006 et jusqu'en 2014, c'est Angela Merkel qui, sans doute, s'intéresse peu au football, mais affiche sa passion. Et puis, le dernier moment, évidemment, j'ai eu l'occasion de le vérifier de visu, c'est la Coupe du Monde en Russie en 2018, qui a été une formidable opération de propagande, parce que quand on se promenait à Moscou, on voyait une ville moderne, très belle, sans trop de déploiement de forces de police, et où toutes les nations du monde pouvaient se promener tranquillement. Donc, alors, la difficulté, c'est de mesurer finalement l'effet. Le sport, il faut aussi se rappeler que c'est quelque chose d'éphémère, que l'émotion sportive, elle tombe vite. Donc moi, je me méfie un petit peu de considérer finalement que c'est un grand lieu d'instrumentalisation, d'exploitation. On voit bien que dans les régimes totalitaires ou dans les dictatures, les gens peuvent être passionnés par le football, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont en même temps adhérer absolument au régime.
Et dans les démocraties, comme vous le rappelez, ces émotions sont aussi volatiles. Enfin, on se souvient de l'émotion quand la France a gagné. À chaque fois que la France gagne, bien évidemment, et puis
oui, et l'émotion était plus forte
dans les querelles habituelles.
Tout à fait. Il y avait un grand débat avant la Coupe du Monde 2018 pour savoir si Emmanuel Macron allait bénéficier d'un succès éventuel de la France. Bon, on voit que ça a duré finalement un peu de temps, mais en même temps, les désastres footballistiques ou par exemple en 2010, la fameuse grève de Naïsna, l'élimination piteuse au premier tour. En même temps, a eu un certain retentissement. Le président Sarkozy s'en est occupé. Et ce sont des débats, finalement, qui ont créé un véritable renversement de l'image qu'on avait de ces Bleus, qui n'étaient plus le symbole d'intégration, mais qui étaient une bande de racailles, pour reprendre le mot de certains hommes politiques.
Oui. L'aspect financier du football, encore une fois, cette financiarisation, mais aussi l'accroissement qui paraît exponentiel des investissements, de certains émoluments, jusqu'à quel point est-ce que l'argent ne va pas tout simplement engloutir le sport à un moment donné ?
Alors, je prends le point de vue de l'historien. Si vous lisez la presse sportive dans les années 30, c'est déjà ce discours. Il y avait une vedette de la Juventus qui s'appelait Orsi, qui gagnait 7 à 8 fois le salaire d'un professeur d'université ou d'un juge. Bon, on sait qu'ils ne sont pas très bien payés, mais c'était un scandale à l'époque. Dans les années 30, vous aviez déjà... La presse était remplie de la question des transferts, des sommes jugées faramineuses. Dans les années 50, le Real Madrid, c'était déjà l'équipe des millionnaires. Donc, on est un petit peu dans le présentisme lorsque on envisage ce football. Ça a toujours été un aspect qui a été fortement critiqué. Aujourd'hui, la question est de savoir jusqu'à combien, finalement, les gens sont prêts à payer pour avoir un abonnement pour telle ou telle ligue, jusqu'à combien ils sont prêts à payer pour aller au stade. Mais on voit bien qu'il y a quand même un engouement qui est fort. Même si, pour revenir au football féminin, il me semble qu'en France, le succès du football féminin au début des années 2010 est fortement lié justement à un certain dégoût pour ce football professionnel, pour les déboires de l'équipe de France. Donc il y a toujours une certaine recherche, évidemment, de pureté. Mais je pense que on n'est pas encore au bout finalement de cet accroissement des ressources financières des clubs. Avec la mondialisation, on va voir si une Super League, par exemple, se crée en Europe, quel sera le niveau des salaires, le niveau éventuel des transferts. On peut très largement dépasser ce qui se fait aujourd'hui.
Michael Correa, jusqu'à quel point est-ce que la passion populaire, qui est encore une fois planétaire pour ce sport-là, plus que pour bien d'autres, jusqu'à quel point cette passion populaire peut gêner ou non les États et les rapports de force géopolitiques qui existent aussi en matière de football, et surtout dans le monde arabe d'ailleurs, ou même en Asie.
Oui, dans le monde arabe. Oui, c'est vrai qu'il y a eu dans le monde arabe. Il faut rappeler que les derniers fameux printemps arabes de 2011, ou ce qui se passe actuellement en Algérie là depuis le 22 février dernier, on a vu que justement les supporters de football étaient vraiment, on va dire, les fers de lance de la contestation. Ça, c'est très intéressant. Quand je parlais justement de questions de retournement tout à l'heure, les régimes autoritaires en Afrique du Nord ont toujours utilisé le football justement comme un peu un exutoire, un défouloir, quoi. Ce qui s'est passé, on va dire, au tournant de l'année 2005-2007, c'est que la culture ultra, ce dont je vous parlais tout à l'heure, va débarquer, va déferler en Afrique du Nord par le biais d'Internet. Et ça a vraiment, comme on dit, entre guillemets, structuré ce défouloir-là qu'ont été les stades et lui donner une vraie dimension politique et organisée. Donc on va avoir comme ça ces groupes de supporters qui vont en Égypte dès janvier 2011 défendre la place Tahrir face aux assauts de l'armée et de la police. Et là aussi, en Algérie, depuis plusieurs années, il y a des vrais slogans et des vraies chansons qui attaquent frontalement le régime, quoi. Même aujourd'hui, depuis donc le 22 février en Algérie, l'hymne des manifestations, c'est un hymne, c'est un chant de stade qui est très populaire là-bas. Donc il y a vraiment cette question-là, un peu plus large même en Europe, du supporter qui devient vraiment un acteur démocratique à part entière. Comme il y a cette volonté, je pense, de plus en plus large en Europe d'avoir plus en plus voix au chapitre au sein de la démocratie, ça se manifeste avec des mouvements comme le mouvement des places en Espagne en 2011 ou Nuit debout en France, par exemple, et ben, au même titre, les supporters veulent avoir leur mot à dire au sein de la gestion, au sein de la gouvernance du football, quoi. Ça, c'est vraiment déjà un premier enjeu. Ensuite, il y a quelque chose qui fait que c'est vrai qu'on a un regard un peu européano-centré, on va dire.
Non, mais vous nous avez tous expliqué que l'Europe reste la patrie du football, donc on ne va pas nier à l'Europe cette prééminence.
Oui. Non, c'est pas. Par rapport aussi aux questions de passion populaire, c'est le fait que il y a quand même un football qui reste en dehors de l'institution, en fait. Je rappelle qu'au Brésil, par exemple.
Oui, donc un football en dehors des institutions. Ce sera le mot de la fin, parce que là aussi, la passion nous emporte. Donc, merci à tous. Merci à vous, Michael Correa. Je rappelle que vous avez écrit Une histoire populaire du foot à la découverte en 2018. Merci à vous, Bastien Dru, économiste. Vous avez publié Économie du football professionnel aux éditions La Découverte et dirigé avec Jean-Baptiste Guégan Mercato, l'économie du football au XXIe siècle chez Bréal. Merci à vous, Paul Dieschi. Vous avez, vous, écrit Une histoire du football, publié chez Perrin en 2010. Et je rappelle votre ouvrage Le sport et la grande guerre chez Kistera en 2018. Je remercie Carole Gomez qui a coordonné un rapport intitulé « Quand le football s'accorde au masculin ». Merci bien sûr à Eric Scholl, Courrier International, à Luc-Jean Reynaud qui était à la réalisation ce matin, Ludovic Auger à la technique. Meryl Moneghetti, qui est une fan de foot, a préparé cette émission avec passion. Et comme tous les samedis, eh bien, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end.